RJB Info.
Et ce soir, on s'informe dans le journal avec vous, Alexandre Rosset. Bonsoir.
Bonsoir. Le métier de médecin de famille rencontre un regain d'intérêt dans le canton de Berne. La mise en place d'un programme unique en Suisse il y a plus de 10 ans semble porter ses fruits. Explication dans un instant. La fête des vignerons est dans les starting blocks. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné demain à Vevey. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour accueillir les centaines de milliers de visiteurs attendus. La 11e étape du Tour de France est revenue à Calais-Béouane. L'Australien a remporté au sprint le tracé du jour qui menait les coureurs d'Albi à Toulouse. Une nouvelle journée estivale est au programme demain. Quelques nuages pourraient toutefois venir jouer les troubles faits dans l'après-midi. Les thermomètres dépasseront la barre des 25 degrés. L'incendie d'un appartement de la route de Saulx en mars dernier à Reconvilliers a été provoqué par une négligence. La police cantonale bernoise l'indique aujourd'hui au terme de l'enquête menée par les spécialistes de la brigade incendie et explosion. Les investigations ont démontré que le sinistre avait été causé par un mauvais stockage de cendres. Et d'après les estimations, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs. La profession de médecin de famille est en train de redorer son blason dans le canton de Berne. Un engouement croissant pour le métier a été constaté durant les 10 dernières années, en particulier dans les régions rurales. Joël Régli, cette situation s'explique notamment par la mise en place d'un programme d'assistanat visant à encourager le choix de la médecine générale auprès des étudiants.
Eh bien oui, puisqu'en moyenne, 8 médecins assistants sur 10 qui ont pris part au programme exercent déjà comme généralistes ou comptent le devenir. Un réel succès selon la Société des médecins du canton de Berne et la Direction de la Santé publique et de la Prévoyance sociale. Ils ont communiqué sur le sujet ce matin. Lancé par le canton en 2008, le programme finance chaque année 35 assistanats de plusieurs mois. Durant cette période, les futurs médecins travaillent dans un cabinet. Le système a été mis en place principalement en zone rurale, là où la pénurie se fait le plus sentir. 87% des participants disent vouloir s'installer dans un cabinet grâce à l'assistanat qu'ils ont effectué. Autre raison principale évoquée, les maîtres de stage, la diversité du travail médical, des patients accompagnés sur le long terme ou encore la compatibilité entre travail et famille. À noter que les chiffres de cette évolution ne sont pas connus dans le détail pour le Jura bernois.
Merci Joël. La pénurie de médecins de famille et de pédiatres devrait toutefois encore s'aggraver à moyen terme en raison des départs à la retraite. Le canton indique que le système de l'assistanat en cabinet restera un moyen sûr d'y pallier. Des chiffres en retrait pour le Swatch Group. L'entreprise horlogère a présenté ce matin son rapport concernant le premier semestre de cette année. Le résultat opérationnel, le bénéfice et le chiffre d'affaires sont en baisse par rapport à l'an dernier à la même période. Les précisions de François Comte.
Le chiffre d'affaires atteint un peu plus de 4 milliards de francs pour le Swatch Group, même s'il est en recul de 3,7% par rapport au niveau solide de l'année passée. L'entreprise insiste sur le fait que ce résultat reste très bon. La croissance a notamment été positive en Chine continentale, au Japon et aux États-Unis dans tous les segments de prix. Les ventes à Hong Kong ont par contre pâti des troubles politiques. Concernant le résultat opérationnel, une baisse de 13% est enregistrée en comparaison annuelle. Le bénéfice net s'est lui rétracté à 415 millions de francs, ce qui représente une diminution de 11,3%. De manière globale, les ventes s'inscrivent en dessous de la plus basse estimation des analystes, mais le bénéfice a dépassé les projections.
Et pour le second semestre, le Swatch Group s'attend à une croissance robuste, grâce notamment à une demande qui reste bonne. La Confédération pourrait fermer plusieurs centres d'asile. L'information a été confirmée par le secrétariat d'État aux migrations qui dit se pencher sur plusieurs possibilités d'optimisation. La baisse des demandes d'asile est notamment en cause. Sur les 4000 lits dont dispose la Suisse, moins de la moitié était utilisée à la fin du mois de juin. La conseillère fédérale Karine Keller-Sauter prendra une décision en septembre. Vevey est en effervescence. Le coup d'envoi de la fête des vignerons sera donné demain avec le cortège du couronnement à 14h. La première du spectacle est-elle prévue à 19h. Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus jusqu'au 11 août dans la ville vaudoise. Un dispositif de sécurité conséquent a donc été mis en place. En tout, 400 à 600 personnes seront mobilisées. Parmi les mesures principales, plus de 40 caméras de surveillance, un logiciel d'évaluation des flux de personnes, mais aussi des patrouilles de police. Le chef de l'état-major de conduite nous fait part de ses plus grandes craintes à quelques heures du lancement de la fête, Denis Froidevaux.
J'en ai deux, c'est les mouvements de foule.
qui, compte tenu de l'exiguïté des lieux et de la densité des personnes présentes, à certains moments peut vraiment nous poser des soucis et avoir des conséquences relativement graves. L'autre, c'est évidemment un événement lié à un acte terroriste isolé qu'on ne peut pas exclure, personne ne peut l'exclure. C'est-à-dire soit un déséquilibré, pas forcément quelqu'un qui appartient à un mouvement terroriste, mais qui tout d'un coup sort un couteau, fonce dans la foule avec un véhicule ou des choses comme ça. Et c'est clair qu'à ce moment-là, on nous dira « Mais comment ça, vous n'avez pas prévu ça? Vous auriez dû, il fallait, il y avait qu'à, etc. » Et ça, c'est évidemment des choses qui sont impossibles à prévoir. Et c'est pour ça que notre ambition, c'est d'avoir la vue d'ensemble la meilleure possible pour pouvoir anticiper et réagir. On est beaucoup aidé par les services de renseignement de la Confédération et du canton par rapport à l'analyse terroriste.
Et au total, le dispositif sécuritaire de la fête des vignerons devrait coûter environ 5,5 millions de francs. Ils veulent sauver les insectes et en particulier les abeilles. Plusieurs actions ont été lancées ces derniers temps à Berne par des élus fédéraux, mais aussi des particuliers. En plus d'une pétition déposée en fin d'année passée, un groupe parlementaire abeilles s'est constitué récemment avec 60 députés de tous horizons. Leur objectif est de sensibiliser toutes les couches de la population à l'importance de protéger les pollinisateurs pour sauvegarder la biodiversité. Ils réclament aussi des mesures courageuses de la part des autorités. Le coprésident de ce groupe parlementaire, le Valaisan Mathias Reynard.
Il faut aussi prendre des mesures un peu plus courageuses en termes d'interdiction de produits. On a des rapports qui nous montrent que certains produits sont néfastes pour les abeilles. On doit les interdire et on ne doit pas uniquement être à la remorque de l'Union européenne et d'attendre de voir si les interdictions de l'Union européenne ne posent pas de problème avant d'oser en faire aussi.
Traduction, il faut accepter les deux initiatives qui veulent interdire les pesticides.
La position du groupe Abeilles et des sociétés des apiculteurs, c'était de mettre en place des contre-projets. Les initiatives peut-être sont complexes à mettre en œuvre pour les agriculteurs. Elles demandent beaucoup en peu de temps, mais rester les bras croisés, c'est irresponsable. Mais on a bon espoir que le Conseil des États corrige ça et vienne avec un contre-projet. Oui, c'est une nécessité aujourd'hui de prendre des mesures contre l'utilisation vraiment exagérée de ces pesticides.
Des propos recueillis par Serge Jubin, c'est finalement le peuple qui décidera vraisemblablement l'année prochaine s'il faut pénaliser les agriculteurs qui utilisent des pesticides de synthèse. À l'étranger, le narcotrafiquant El Chapo a été condamné aujourd'hui par un juge de New York à la perpétuité. La peine a été symboliquement assortie de 30 années de prison supplémentaire. Les avocats de Joaquim Guzman ont déjà annoncé qu'il fera appel de cette condamnation. El Chapo est accusé d'avoir tué ou ordonné l'assassinat d'au moins 26 personnes, mais aussi d'avoir introduit plus de 1000 tonnes de cocaïne aux États-Unis en un quart de siècle. Il sera enfermé dans une prison du Colorado, considérée comme la plus sûre de tout le pays. Bien avant le 21 juillet 1969, ils sont nombreux à avoir rêvé l'homme se rapprochant de la Lune et à lui avoir fait poser le pied dessus, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou encore la bande dessinée avec le célèbre objectif Lune de Tintin sorti en 1953. Il y a toujours eu un lien fort entre l'imaginaire de l'humanité et le corps céleste. On en parle aujourd'hui avec Marc Attala, le directeur du musée de la science-fiction La Maison d'ailleurs à Yverdon.
Il y a eu deux exploitations, on va dire, majoritaires de la Lune, dans la fiction et la poésie. C'est-à-dire que vous avez à la fois des récits qui se déroulent sur la Lune, en sachant que dans cette tradition littéraire, la Lune est utilisée, si vous voulez, comme une sorte de miroir déformant des problématiques, elles, très terrestres. Vous avez aussi, alors, un courant peut-être plus intéressant par rapport à la Lune ou à l'imaginaire de la Lune, qui est le courant symbolique ou poétique, c'est-à-dire l'idée que la Lune, qui éclaire l'obscurité, et tout ce qu'elle a d'un peu angoissant, effrayant pour certains, c'est à la fois cette présence bienveillante, cette présence qui nous éclaire dans l'obscurité. Donc elle a une dimension poétique très forte. Et ces deux grandes tendances montrent aussi que la Lune scientifique, celle qui existe telle qu'elle est, n'est pas très importante. Ce n'est pas la Lune qu'on regarde, mais c'est l'être humain à travers un détour sur la Lune que l'on va regarder.
Avant 69, y a-t-il une œuvre que l'on pourrait peut-être mettre par-dessus les autres? Et pourquoi cette œuvre?
Je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, mais je dirais en tout cas un des récits les plus connus littéraire, puis après qui a été adapté au cinéma, c'est évidemment les textes de Jules Verne, hein, d'abord de la Terre à la Lune, puis ensuite autour de la Lune, qui vont être ensuite utilisés au cinéma avec les premiers films de Méliès. Chez Jules Verne, son objectif éditorial, c'est de pouvoir vulgariser la science de son temps pour les petits bourgeois qui vont lire les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Et donc en fait, lorsqu'il va poster son obus sur la Lune, c'est aussi pour parler de toutes les sciences en pleine effervescence au 19e siècle, et en particulier l'astronomie, qui permettrait, grâce à la technologie, de pouvoir étendre notre rapport à l'espace. On peut aller plus loin que ce que la Terre nous permet de visiter, parce qu'on maîtrise enfin un ensemble de techniques qui nous permettent de nous affranchir de nos limitations terrestres. Donc je dirais que c'est l'œuvre peut-être la plus culte plutôt que supérieure, parce que tout le monde a lu, ou en tout cas tout le monde a déjà vu ces images de Méliès, de cette lune qui reçoit la fusée, ou même du texte de Jules Verne. Parce que c'est peut-être l'œuvre la plus scientifique aussi. C'est celle qui essaie de couper cette idée que la lune est utilisée pour refléter l'humain. La lune est un objet céleste qu'on peut atteindre, point.
L'homme marche sur la lune, qu'est-ce qui change à ce moment-là ?
Étrangement, pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est que du moment où vous avez le monde réel, où l'être humain se pose sur la Lune, les récits de science-fiction, qui sont souvent ceux qui traitent de ce genre de questions-là, on doit avoir ce sentiment que c'est possible. Et donc du moment où on s'est posé sur la Lune et qu'on s'aperçoit, oh déception, qu'il n'y a rien, évidemment c'est plus compliqué d'imaginer écrire un récit de science-fiction qui va se passer sur la Lune. Donc ce qui va se passer dans la science-fiction post-alunissage, c'est que la Lune va soudainement devenir non plus un objet littéraire qui permet de réfléchir par contraste aux problématiques terrestres, mais va devenir un objet souvent traité de manière ironique. C'est-à-dire qu'en fait, on va y placer des choses dans des récits ironiques. Je pense par exemple au film Iron Sky, hein, où, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui sont partis sur la Lune et qui ont établi une sorte de société décadente sur la face cachée de la Lune. On va voir aussi apparaître des Transformers sur la Lune, dans l'opus des Transformers, qui est le 3 ou le 4, qui s'appelle d'ailleurs Dark Side of the Moon. C'est que c'est soudainement la face cachée qui va devenir la dépositaire des récits possibles sur la Lune, puisque c'est le seul endroit qu'on ne voit pas, donc c'est le seul endroit encore mystérieux, et donc c'est le seul endroit où on peut encore meubler avec d'autres choses.
Des propos recueillis par David Sanchez. C'est retrouver notre série dédiée aux 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune sur notre site internet rjb.ch.
RJB, les 18h12.
Sport. Comme prévu, la 11e étape du Tour de France s'est jouée au sprint. Et à ce petit jeu, c'est Caleb Ewan qui s'est montré le plus fort cet après-midi après un effort de 167 km entre Albi et Toulouse. L'Australien remporte ainsi sa première victoire sur la grande boucle. Il a devancé d'un cheveu le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Italien Elia Viviani. Pas de changement en tête du classement général. C'est toujours le Français Julian Alaphilippe qui porte le maillot jaune. Sur les routes du Tour, le résumé de cette 11e étape est signé par notre confrère de RMC Sport, Arthur Perrault.
Une reprise en douceur après une journée de repos. Le peloton du Tour de France reprend sa route en direction des Pyrénées aujourd'hui. Les coureurs ont la chance de visiter le Tarn et ses routes sinueuses au milieu des rochers. Le tout lors d'une 11e étape longue de 167 km un tracé qui va mettre à contribution les équipiers des sprinteurs qui n'ont toujours pas trouvé leur maître. Mais dès le départ, 4 hommes prennent leur distance. Parmi eux, l'Albigeois Lilian Calmejane, mais aussi un habitué des échappées depuis le début de cette grande boucle, Stéphane Rossetto de l'écurie Cofidis. Le groupe maillot jaune maintient lui une cadence infernale à sa tête. On retrouve encore et toujours les écuries Lotto Soudal, Jumbo Visma et De Koenen Quickstep. L'écart ne va jamais dépasser les 3 minutes 15 et il va être comblé très tranquillement à 30 km de l'arrivée. Nouveau rebondissement, Nairo Quintana, Richie Porte ou encore Nicky Terpstra sont victimes d'une chute. Ce dernier est d'ailleurs contraint à l'abandon. Et finalement, dans la dernière ligne droite de la Ville Rose, c'est Caleb Ewan qui s'impose. Il devance d'un boyau de roue Dylan Groenewegen et Elia Viviani.
Et demain, place à la montagne aux Pyrénées. La 12e étape du Tour de France emmènera les cyclistes de Toulouse à Bagnères-de-Bigorre sur 209,5 km. Très belle soirée.
Merci Alexandre. La suite de l'actu s'est à retrouver en tout temps sur notre site rjb.ch. Pour ce mercredi soir, le temps sera calme et sec, sous un ciel souvent dégagé. On aura aussi quelques rares cumulus et cirrus, mais sans conséquence. Pour demain, la journée s'annonce encore une fois belle, idéale pour aller à la piscine ou alors faire du paddle, par exemple. Les conditions seront assez ensoleillées, malgré des passages nuageux de moyenne et haute altitude, parfois étendus l'après-midi. On aura aussi le développement de cumulus au fil des heures, mais le temps devrait rester en principe sec. Les températures, elles seront chaudes et estivales. Le matin, on tournera entre 10 et 15 degrés. L'après-midi, on ira taper dans du 25 à 27. Préparez-vous, ça va continuer de grimper au niveau du thermomètre. On atteindra gentiment les 30 à 32 pour le début de semaine prochaine. Et puis pour les prochains jours, on aura un peu un temps identique avec pas mal de soleil, un petit peu de nuages entre vendredi et samedi. Dimanche, peut-être quelques gouttes.